Bonsoir à toutes et à tous. Vous
Salut.
Êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. A tout de suite. Et voilà, donc Idées Noires, encore ce mercredi de juillet, pour tout un tas de choses qu'on va vous dire. On va commencer déjà par les annonces.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'une émission le 12 juillet, ça devait être longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Il y a un début à tout. Deux petites annonces. La première, ça concerne le Front Social avec un appel à manifestation qui a lieu ce vendredi 14 juillet à 17h au départ de la place Guichard. Avec un petit parcours. Enfin, du coup, je pense qu'il y aura des prises de parole, des explications un petit peu de ce qu'est la loi, des DIF. Et ensuite, un cortège qui ira dans le 7e jusqu'à la place Raspail, je crois. Donc c'est le rendez-vous, c'est à 17h place Guichard le 14 juillet. Donc voilà, c'est une date qui a été posée au niveau national par le Front Social, enfin en tout cas à Paris, et qui a été suivie du coup par ce qui se passe en province, du coup dans plusieurs villes. Voilà, cet appel du 14 juillet. A priori, il y aura peut-être du coup un autre appel début septembre avant l'appel à la grève syndicale qu'on espère intersyndicale. Pour l'instant, sont positionnés la CGT et Solidaire le 12 septembre. Voilà, en espérant que ça pourrait, pourquoi pas, être le départ de quelque chose, et surtout, voilà, un truc sur la continuité durant peut-être la semaine, voilà, avec un appel généralisé, pourquoi pas, à la grève. Donc, on espère, voilà, que ce sera un début. En tout cas, voilà, on soutient les deux types d'actions, voilà, parce que c'est important aussi de se mobiliser durant l'été. Donc, voilà, ça, c'est la première annonce. Et la deuxième, alors, elle concerne pas un truc où on vous conseille d'aller, hein, forcément. Si vous suivez un petit peu l'actualité de nos amis les Bêtes, du coup sur Lyon notamment, vous savez qu'il y a une manifestation qui est prévue samedi 15 juillet au départ de la place Carnot, organisée par le GUD, donc le groupe Union Défense.
Alors, on n'appelle pas à y aller, hein. Au contraire.
Non, c'est ce que j'ai dit. Vous conseille pas à y aller, voilà. Hein. Voilà, c'est juste pour tenir au courant un peu de tout ça. Voilà, c'est toujours par rapport à leur bastion social, à le pseudo squat qu'ils avaient essayé d'ouvrir au niveau de la place des Jacobins. Et donc du coup voilà, petit explicatif voilà vite fait sur ce qu'est le GUD, hein, on le rappelle, ce groupuscule d'extrême droite radicale qui a été formé en 68 suite à la dissolution d'un autre groupe d'extrême droite qui s'appelait Occident. Ce groupe Union Défense a été réactivé à Lyon à partir de 2011, prenant la violence de rue. Il y a eu notamment de nombreuses condamnations sur Lyon à des peines de prison ferme, mais pas qu'à Lyon. Le GUD ne cache pas son antisémitisme, son homophobie et ses affinités avec le milieu néo-nazi. Et du coup, on voulait revenir un petit peu sur ce que c'était le bastion social. Donc, en fait, ils sont un petit peu inspirés de ce qui se faisait en Italie, notamment au niveau des néo-fascistes italiens de Casa Pound. Donc, le GUD a tenté d'occuper un immeuble pour soi-disant venir en aide aux personnes françaises, entre guillemets, hein, démunies. Et ce qu'il faut comprendre par française, bah, c'est uniquement forcément des personnes de couleur blanche. Cette occupation, voilà, devait surtout servir, bah, du coup, à établir un lieu pérenne pour loger des militants d'extrême droite radicaux, les former idéologiquement et les entraîner au combat de rue. Voilà, ce qui était plutôt pas mal quand ils ont essayé d'ouvrir ce lieu, c'est que toutes les assos, en fait, d'aide aux personnes vivant à la rue, voilà, ont vivement dénoncé l'ouverture d'un tel lieu. Et on dit que, bien évidemment, ils n'allaient pas orienter des personnes vers celui-ci. Voilà, et donc ce samedi, donc, les militants du GUD, aidés de gros bras venus de toute la France et d'Italie, donc, ont pour objectif de parader dans les rues lyonnaises et de déverser leur haine de l'étranger et de celles et ceux qui les soutiennent. Ce qui n'était pas possible de faire, enfin, en tout cas pour le moment, c'était de poser quelque chose en contre-manifestation, en contre-rassemblement sur cette période-là de l'année. C'était un peu compliqué. Je pense que le choix de leur manif n'est pas aussi anodine, hein, par rapport à un week-end de 3 jours et sur une date à mi-juillet. Et donc le minima qu'on pouvait faire, bah, c'est d'essayer de faire chier le plus possible, au moins, la ville de Lyon et la préfecture. Donc voilà. Ça a déjà marché par le passé, hein, quand ils avaient essayé de déposer des manifs à droite à gauche, là, il y a 3-4 ans, ou 4-5 ans même. Ce qui pouvait être fait, voilà, c'est de faire sauter le standard de la ville de Lyon, de la préfecture, pour leur dire que, grosso modo, qu'on était contre cette marche. Ça avait plutôt bien marché, donc on va vous redonner le numéro, hein, s'il y en a qui sont dès demain, notamment demain, parce qu'après vendredi, ça va être férié.
Enfin, faire sauter le standard, c'est-à-dire faire des appels des...
Oui, voilà, enfin, oui, enfin, ce standard, c'est qu'il faut qu'il y ait énormément d'appels pour que ça le fasse, mais du coup, ça avait eu son petit effet. Ouais, le minimum qu'on peut faire, malheureusement. On aurait bien évidemment aimé faire beaucoup mieux. Mais donc voilà, donc on vous donne tout ça. Le numéro de la ville de Lyon, donc qui n'a jamais rien fait contre l'ouverture de locaux fascistes sur la ville, le 04 72 10 30 30, et le numéro de la préfecture, qui ne fait pas grand-chose non plus, il faut l'avouer, 04 72 61 60 60. Voilà, vous appelez, vous dites que voilà, c'est de la, cette manifestation, il n'est pas question qu'elle se tienne sur Lyon. Voilà, s'il y a des centaines d'appels, ça peut avoir son petit effet. Voilà, en espérant, un, que ça marche, et puis deux, que sur les prochains coups, on puisse se mobiliser un peu plus et de manière un peu plus unitaire pour pouvoir proposer quelque chose en face de tout cela. Donc voilà pour les annonces.
D'accord, très bien, merci. Et on va parler maintenant des prisons, enfin des prisonniers et des prisonnières surtout, je pense. Hein.
Oui, et donc notamment des conditions de détention. Donc c'est un rapport de l'Observatoire international des prisons, trouvé sur Mediapart. Alors je vais vous lire donc l'article. Alors que le Conseil d'État examine aujourd'hui les conditions de détention et la surpopulation à Fresnes, le comité anti-torture de l'Europe dressait dans un récent rapport un état des lieux alarmant des prisons françaises, pointant violence et mauvais traitements et invitant la France à engager une réflexion vers une nouvelle politique pénale, pénitentiaire et durable. Bon, alors donc l'article du 15 au 27 novembre 2015, l'organe de prévention de la torture et des mauvais traitements du Conseil de l'Europe effectuait une visite en France pour y examiner la conformité des lieux privatifs de liberté français avec le respect des droits de l'homme. Côté prison, la délégation visitait les maisons d'arrêt de Fresnes, Nîmes et Villepinte, ainsi que le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Son rapport de visite avait été adopté en juillet 2016, mais le gouvernement français n'a accepté qu'il soit rendu public qu'en avril dernier. Une publication intervenue alors que la France battait des records historiques d'incarcération et que plusieurs associations, dont l'OIP, donc, qui est l'Observation internationale des prisons, saisissait la justice pour dénoncer les atteintes particulièrement graves portées à la dignité des personnes incarcérées à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans son rapport, le comité enfonce le clou. Il considère que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment dans les maisons d'arrêt de Fresnes et de Nîmes, associées à la surpopulation et au manque d'activité, pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant. Il s'alarme par ailleurs du problème endémique de la surpopulation carcérale, sujet sur lequel il relève avec préoccupation que plusieurs recommandations importantes, formulées de longue date, n'ont toujours pas été mises en œuvre. Alors, le paragraphe suivant, c'est « Quand conditions indignes de détention riment avec désœuvrement ». Bien que les conditions matérielles de détention varient grandement d'un établissement à l'autre, reconnaît le comité, Celle des maisons d'arrêt visitées était extrêmement préoccupante, marquée par la promiscuité et l'insalubrité. Dans tous ces établissements, la plupart des cellules normalement prévues pour une personne mesuraient moins de 10 mètres carrés, sanitaires compris, et accueillaient deux, voire trois détenus, s'alarme le comité. Conséquence, les détenus hébergés à trois dans ces cellules ne pouvaient disposer d'une table suffisamment grande, et ni avoir une chaise chacun, et étaient contraints de manger sur leur lit. Certains dormaient sur un matelas posé à même le sol, ou sur une armoire couchée, contribuant ainsi à réduire encore l'espace disponible en cellules. Dans nombre de cas, les détenus placés dans les cellules collectives disposaient de moins de 4 mètres carrés chacun, le plus souvent de 3 mètres carrés, voire moins, précise encore le comité qui appelle les autorités françaises à garantir à chaque détenu un lit individuel ainsi qu'un minimum de 4 mètres carrés d'espace de vie, ce qui me semble personnellement...
Déjà très peu, ouais.
Voilà. 4 mètres d'espace de vie en cellule collective, hors sanitaire, voilà, ouais, ce qui est déjà bien inhumain. La situation était particulièrement préoccupante dans les prisons de Fresnes et de Nîmes, où d'importants problèmes de chauffage, température de 15 degrés, d'humidité, prolifération de moisissures et de nuisibles, notamment des rats et des cafards, s'ajoutaient à la surpopulation, relève le rapport. Ainsi, plusieurs des cellules visitées dans ces établissements avaient un mur presque totalement recouvert de taches noires. Une situation aggravée par la vétusté des infrastructures et des problèmes de ventilation, mais pas seulement. À Fresnes, le comité pointe que les odeurs nauséabondes engendrées par la présence de rats et les déjections empêchaient les détenus d'ouvrir la fenêtre et d'aérer. La délégation a directement pu voir des rats circuler à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments et a noté dans les couloirs et les cours extérieurs un nombre considérable de déjections, précise donc ce comité. Cette situation est d'autant plus intenable que les détenus passent souvent plus de 21 heures par jour enfermés en cellule. La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements ne bénéficiaient d'aucune activité, hormis de quelques heures d'exercice en plein air et d'un peu de sport. Et encore, faute de place, l'accès à la salle de sport de Fresnes était limité et les détenus devaient attendre plusieurs mois pour être autorisés à s'y rendre durant une heure par semaine. Le comité reconnaît que la capacité de l'administration pénitentiaire à offrir des activités motivantes liées à un programme de détention individualisée dépend pour une large part du problème du surpeuplement. Il ne faut cependant pas attendre que ce dernier s'améliore pour élargir les possibilités offertes aux détenus, notent les auteurs. Voilà, de toute façon, on enferme à tour de bras dans cette société qui est répressive et cette justice bourgeoise. Alors ensuite, le paragraphe brimade, violence et mauvais traitement. Autre source importante de préoccupation du comité, les allégations de violence et mauvais traitement à l'encontre de personnes détenues de la part des surveillants. Si la délégation a recueilli des allégations d'usage excessif de la force et de propos insultants dans l'ensemble des prisons visitées, c'est à la maison d'arrêt des hommes de Fresnes que ces témoignages sont les plus massifs et concordants. Ainsi, elle relève, entre guillemets, de nombreuses allégations crédibles d'insultes, notamment à caractère raciste, de comportements inadaptés, bousculades, rudoiements, et de recours excessifs à la force, certains détenus rapportant avoir reçu des coups alors qu'ils étaient immobilisés au sol. Ouais. Bah, la police fait pareil, d'ailleurs, bon... Des personnes travaillant dans l'établissement ont également corroboré des informations collectées. Ces incidents violents concernaient principalement des agents pénitentiaires, y compris des gradés de la division 3. Ça, je n'ai pas vérifié ce que c'était. Les auteurs de ce rapport invitent le gouvernement à déclencher des enquêtes promptes, indépendantes et approfondies en cas de plainte de mauvais traitement.
C'est ce que ça va donner, normalement. C'est ce que ça va donner, c'est comme les plaintes classiques de violence policière, à mon avis. Voilà.
Enfin,
en plus, on doit être vite catalogué si on porte plainte alors qu'on est emprisonné déjà.
Ah oui.
Je pense que ça va être compliqué le quotidien.
Les syndicats de matons qui vont les protéger en plus.
Voilà. Et ouais. Et à ces attitudes délibérées s'ajoute la persistance de pratiques qui relèvent de traitements inhumains ou dégradants, tels que le maintien des entraves pendant les transferts en soins. Et soins en milieu hospitalier, les réveils nocturnes susceptibles d'entraîner des troubles psychologiques chez certains détenus ou d'aggraver des problèmes existants, ou encore la pratique des fouilles à nu systématiques. À propos de cette dernière, le comité regrette vivement la modification législative apportée par la loi antiterroriste du 3 juin 2016, qui permet d'ordonner des fouilles à nu, non plus sur le fondement d'un risque individuel, mais sur la base de soupçons collectifs.
Alors, c'est très facile.
Voilà. Ah ouais. Et dernier paragraphe, Fresnes, la justice sera-t-elle à la hauteur de la situation? Le tableau accablant dressé par le comité européen concernant les conditions de détention à la maison d'arrêt des hommes de Fresnes est venu corroborer un constat ancien et répété, dressé tant par les associations que par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. À l'issue de sa visite de l'établissement en novembre 2016, cette dernière délivrait des recommandations en urgence, pointant un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En octobre, l'Observatoire international des prisons avait déjà saisi la justice sur la présence de rats, puces et punaises de lit dans l'établissement. Face à l'attentisme de l'administration devant ce constat alarmant, l'OIP et une dizaine de barreaux de syndicats d'avocats ont saisi en avril le tribunal administratif de Melun. Ils demandaient un plan d'urgence et que soient prises des mesures concernant tant les conditions matérielles de détention que le climat de violence dans lequel se trouvent les personnes détenues. Enfin, déjà pour moi, l'enfermement est une violence. Le manque d'activité ou encore le défaut de prise en charge et de préparation à la sortie. Dans une décision du 28 avril 2017, le juge a admis que les conditions de détention soumettaient les personnes incarcérées dans l'établissement à des traitements inhumains et dégradants et ordonné la mise en œuvre de mesures immédiates. Mais il a rejeté les demandes qui visaient à remédier aux problèmes structurels de surpopulation et de vétusté, seul à même d'améliorer durablement la situation. Les organisations ont fait appel de ces décisions devant le Conseil d'État. Et la haute juridiction saura-t-elle entendre les nombreuses voix qui s'élèvent et être à la hauteur de sa mission de gardien du respect des droits et libertés fondamentaux? Donc il y avait une audience aujourd'hui à 14h. Voilà.
Ok. Du coup, puis on rappelle aussi que la construction de nouvelles places de prison ou de nouvelles prisons n'est pas la solution, vu le nombre de personnes effectivement qui sont enfermées depuis. Enfin, que ça s'enchaîne. Hein, de toute façon, plus il y a de prisons, plus il y a de mettre de monde dedans, de toute manière.
Que ce soit après les prisons,
ça n'est pas la solution.
Puis il y a pas mal de trucs qui sortent en ce moment aussi. Mais j'ai vu sur apparemment la prison de Villefranche-sur-Saône, du coup, qui est pas loin d'ici. Il y a des mauvais traitements, en masse. Du coup, toute l'équipe des matons en général, ils sont d'accord pour les traitements qu'ils accordent aux prisonniers et du coup c'est vraiment des trucs horribles quoi. Ils ont genre 2 minutes pour la douche, s'ils n'ont pas fini ils sont jetés dehors par les gardiens, enfin ils peuvent pas dormir et tout, que des trucs horribles. Dans les prisons de femmes aussi ça se passe, je crois qu'il y en a une pas loin d'ici vers Corbas il me semble, je suis plus sûre. Là-bas c'est pareil, il y a eu des grosses dénonciations de traitements abusifs, pareil les fouilles à nu tout ça. Et puis faut rappeler que dans les prisons de femmes aussi du coup les équipes de gardiens c'est pas nécessairement des femmes, ce qui fait qu'il y a des gros rapports aussi de pouvoir dont ils profitent et du coup voilà, ça mène à des petits traitements dégueulasses.
Et puis là, on vient de voir du coup pour la reconnaissance de l'État pour ce métier de gardien de prison que du coup les gardiens de prison d'élite vont défiler le 14 juillet, voilà, pour les remercier du bon travail qu'ils font. Si c'est pas merveilleux tout ça, donc voilà.
Comme d'habitude. On va aborder une autre violence maintenant, puisque c'est l'IVG et en Arkansas apparemment.
Voilà, c'est ça. Donc super aux États-Unis, comme d'habitude. De toute façon, ils régressent. En tout cas, depuis que Trump est au pouvoir et puis déjà un petit peu avant. Mais bon, voilà. Donc du coup, en Arkansas, alors maintenant, à partir de fin juillet, là, les femmes ne pourront plus avorter sans l'accord de leur mari. Donc voilà, c'est un projet de loi qui devrait entrer en vigueur fin juillet et ça suscite quand même un petit peu la colère des associations pro-choix, entre guillemets, donc pro-IVG. Donc, comme d'autres États conservateurs américains, l'Arkansas semble décider à aller toujours plus loin dans sa législation anti-avortement. En vertu d'un nouveau projet de loi qui devrait entrer en vigueur fin juillet, les femmes ne pourront plus avorter sans l'accord du père de l'enfant. Donc, c'est même pas forcément le mari.
C'est ça, ouais.
C'est ce qui est précisé plus tard, mais si elles se font violer, du coup, elles sont obligées de demander au mec l'autorisation pour aller se faire avorter.
Mais c'est comme en Turquie, ça, non ? C'est à peu près le même.
Il y avait à un moment donné ce truc-là d'opposer en Turquie. Alors, il n'avait pas été. C'était pas allé jusqu'au bout, mais là, du coup, a priori, voilà, le Conseil d'État a validé, donc ça va être en marche bientôt.
Voilà, c'est ça. Donc, ce texte de loi qui s'inscrit dans l'Arkansas Final Disposition Rights de 2009, qui prévoit que les membres d'une famille doivent se mettre d'accord sur le sort d'un corps en cas de décès, y compris pour les fœtus avortés. Pour les jeunes filles âgées de moins de 18 ans, la décision reviendra aux parents ou aux tuteurs légaux. Plus grave encore, cette nouvelle disposition s'appliquera également dans le cas d'un enfant à naître d'un viol. Légalement, le violeur pourra être consulté et sera en droit de refuser et donc de bloquer la procédure d'avortement, comme le note The Independent, donc un média américain. Donc évidemment, c'est une atteinte à la vie privée des femmes, puisque ce texte voté en mars, qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois de juillet, encore une fois, provoque depuis plusieurs mois la colère des associations. Chaque jour, des femmes en Arkansas et tout autour des États-Unis doivent se battre pour avoir accès aux soins dont elles ont besoin, et les législateurs imposent de nouvelles manières de fermer les cliniques et de rendre l'avortement impossible, a notamment déclaré l'Américain Civil Liberties Union, donc la CLU, dans un communiqué du 28 juin. Les femmes de l'Arkansas ne peuvent se permettre de perdre encore davantage d'accès à l'avortement. Elles ne peuvent se permettre de parcourir des centaines de miles pour se rendre à la clinique la plus proche. Elles ne devraient pas subir d'atteinte à leur vie privée et à leur autonomie, écrit-elle encore, annonçant sa volonté de contester cette loi en justice. Pour un porte-parole de l'association pro-choix NARAL, cité par le Huffington Post, l'intention et le résultat inévitable de la nouvelle loi est de rendre plus difficile pour les femmes d'accéder aux soins de base en plaçant plus de barrières entre les femmes et leurs médecins. Depuis l'élection de Donald Trump, le droit à l'avortement est de plus en plus malmené. En février, la commission des affaires intérieures du Sénat du Texas votait à l'unanimité un texte prévoyant d'empêcher les parents de porter plainte contre un médecin leur ayant caché délibérément un handicap de leur enfant à naître. Une façon pour les associations d'autoriser les médecins opposés à l'avortement de mentir à leurs patientes. En décembre, le même État proposait d'instaurer la mise en place automatique de funérailles pour le fœtus avorté. Quelques semaines plus tard, un juge avait repoussé le texte, y voyant un prétexte pour restreindre le droit à l'avortement.
Je m'étonne.
Donc, voilà. Les funérailles pour des fœtus, super. Oh, on se croit avec les survivants, là,
c'est ça,
pire.
Exactement. Oui.
Sans transition,
bah voilà, de l'Arkansas, on va retourner en France, du coup, avec la PMA. Du coup, on vous avait mis un petit peu au courant sur une émission précédente, du coup, que le Conseil de l'éthique avait avait donné un avis positif pour l'ouverture à toutes les femmes à la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Et ben là, du coup, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui s'appelle Agnès Buzyne, a renvoyé ça à fin 2018, c'est-à-dire à peu près à la date de la révision de la loi sur la bioéthique, l'ouverture du coup de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Et donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la voie est libre pour la mobilisation des opposants. Voilà, c'est ce que redoutent en tout cas les associations féministes et LGBT. Je pense qu'elles n'ont pas tort, parce que ça va être le même bordel que pour la loi pour le mariage pour toutes et tous. Ça veut dire qu'à force d'attendre, on laisse le champ libre aux autres, et du coup ça va encore envahir les rues et toutes les violences que ça produit. Donc cette PMA, on y retourne, qui avait été promise depuis 2012 aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, est une énième fois repoussée. Donc cette ministre, a estimé, donc elle estime toute seule dans son coin, hier, que la société française était prête, mais on va quand même renvoyer ça à 2018. Donc elle a dit, alors que c'était une promesse de notre président Emmanuel Macron, qui s'est engagé durant la campagne en faveur de cette ouverture, la ministre, elle refuse même de donner sa position personnelle dessus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on l'avait dit aussi, c'est qu'il y a deux ministres dans le lot de tous les ministres qui ont été nommés, qui étaient du coup contre le mariage pour tous et toutes.
Contre la PM.
Voilà. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que fin juin, donc ce fameux comité consultatif national d'éthique, donc c'était prononcé pour l'ouverture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la PMA, que ce soit par le biais d'une insémination artificielle ou in vitro, elle est réservée en France aux couples hétérosexuels pouvant justifier de 2 ans de vie commune et souffrant d'infertilité ou risquant de transmettre une maladie très grave. Voilà, considérée comme le traitement d'une pathologie, donc dans ce cas-là, elle est remboursée par la Sécu. Par rapport aux lois de la bioéthique, donc ces lois-là de 94, révisées en 2004 puis en 2011, qui limitent l'accès à la PMA aux couples hétérosexuels infertiles sur la base d'une fiction, à savoir que l'enfant né par PMA doit pouvoir passer pour la progéniture entre guillemets naturelle de ses parents. Voilà, ce texte-là est régulièrement réexaminé au regard des évolutions des connaissances scientifiques. Et donc le nouvel examen doit avoir lieu en 2018, date butoir du délai légal de 7 ans prévu. Donc dans son avis de fin juin du Conseil d'éthique, celui-ci estimait nécessaire, alors ça va être un peu très risqué ce truc-là, sur une consultation citoyenne en 2018 pour réfléchir à la question du coût du remboursement de la PMA et de ses conséquences. Donc on peut imaginer ce que ça peut engendrer, ce genre de choses. Mais donc pour les associations féministes et LGBT, échaudées par le recul de l'ex-président François Hollande, le gouvernement devrait légiférer dès cette année. Puisque la ministre estime que la société est prête, il faudrait une loi avant la fin de l'année 2017. Ça, c'est une demande du président de SOS Homophobie, car depuis 2012, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été sans cesse repoussée. D'abord prévue dans la loi sur le mariage des couples de même sexe du 17 mai 2013. Cette réforme en a été exfiltrée à 2 reprises, puis renvoyée à la loi famille et enfin suspendue à l'avis de ce fameux comité d'éthique, qui a mis quand même 4 ans et demi pour se prononcer. La cofondatrice de l'association Les Effrontés donc dit que tout le monde a été baladé durant tout le précédent quinquennat. Le gouvernement donc a fait une promesse, il a été élu, il est légitime donc à légiférer pour cette association-là. Elle prend l'exemple du coup d'un membre du bureau de l'association, entre guillemets mère sociale d'un enfant conçu par insémination en Espagne et qui a perdu tout droit sur celui-ci quand sa compagne mère légale l'a quitté. Donc Hollande s'est caché derrière le comité d'éthique et maintenant le gouvernement continue pour justifier son manque de courage politique alors qu'il s'agit d'une question de justice sociale, de santé publique et d'autonomie des femmes, regrette du coup la porte-parole de l'Inter-LGBT qui fédère une 60aine d'associations. Elle estime très bizarre de reléguer ce choix à un débat public, alors que pour réformer le droit du travail, bien que la société soit également très divisée, le gouvernement, là, estime qu'il n'y a pas besoin de débat de société et qu'il peut légiférer par ordonnance. Le calendrier donc, qui repousse tout ça à 2018, c'est très jugé très risqué, puisqu'effectivement, ça va donner toute latitude à la Manif pour tous et au mouvement conservateur pour lever des fonds et s'organiser. Avocate de famille homoparentale, qui est une dame qui s'appelle Caroline Mécari, pointe du coup le précédent de la loi sur le mariage pour tous, dont la présentation tardive en novembre 2012 avait permis une forte mobilisation des opposants et le déchaînement d'une parole homophobe. Donc ça risque d'être évidemment la même chose ici. Et les militantes et militants considèrent également de différentes associations que cette réforme n'a pas sa place dans un débat public sur l'éthique, puisque la question de fond de la PMA a déjà été tranchée en 94 pour les couples hétérosexuels, et que là, on le répète nous aussi, c'est juste une question d'égalité, donc voilà, de mettre tout le monde en fait à la même enseigne par rapport à ce sujet-là aussi. C'est pas un droit nouveau, c'est juste une extension aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc voilà. Évidemment, on disait, les opposants, eux sont à l'affût. Ça ne passera pas, a aussitôt menacé sur Twitter la Manif pour tous. Donc voilà, ils s'appuient sur des sondages qui sont très orientés. Et on apprend même qu'un monsieur qui s'appelle Tuc Dual d'Herville, quand même, quel magnifique prénom, donc délégué général d'Alliance Vita, association qui milite contre un peu tout, en tout cas toutes les libertés, en tout cas pour les femmes, et donc contre la PMA sans père, disait fin juin être prêt à redescendre dans la rue avec des Français de toutes les sensibilités politiques et philosophiques sur la base d'un collectif plus large que celui de la Manif pour tous. Un beau programme en perspective, donc voilà, on va suivre ça de près, et en espérant qu'il y ait des mobilisations, en fait... pour la PMA, pour toutes les femmes, avant qu'il y ait des mobilisations de ces connards de la Manif pour tous.
Voilà.
Donc voilà.
Merci. Petite musique maintenant, je vous la propose.
Allez, let's go.
Allez, on va écouter les Ted Red qui nous interprètent précisément Prison. Voilà, c'est parti.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes, et nous allons enchaîner avec un jet de lutte sociale.
En effet.
Vas-y, jette.
Oui, il y en a plein. C'est plus un jet, c'est un fagot, c'est une brassée. Donc, je vais vous emmener donc à Chartres. C'est un quartier populaire, 7500 habitants, du gentil nom de La Madeleine. Eh bien, ici, encore une fois, la poste sévit, comme partout ailleurs, d'ailleurs. Un bureau de poste, donc, à effacer. Waouh, c'est bon. Et en faire un point poste. Alors juste pour retirer, recommander et colis, ben pour les autres opérations, ben vous irez, les gens de la Madeleine iront voir plus loin, ben peut-être chez le charcutier ou chez le boulanger ou voilà, donc ou à Perpète même carrément. Donc la CGT a bougé ici, c'est des journées d'action des employés aussi, il y en a une le 23 juin et une pétition et aussi réunion publique et une mobilisation donc le 6 juillet. Pour sauver donc ce petit bureau de poste.
Et par rapport à la poste, du coup, enfin, ce qui on en parle beaucoup hein, toutes les semaines pratiquement. Il y a un mouvement de grève sur une ville au niveau de la poste. Comme le gouvernement là promet des baisses d'impôts et compagnie, ils vont devoir trouver des sous ailleurs. Et ce que font les gouvernements de droite comme celui-là normalement, c'est qu'ils vont aller privatiser, enfin chercher à privatiser des entreprises publiques pour pouvoir faire un peu de thunes, et on parle beaucoup notamment, devinez quoi, de la poste.
C'est pas
étonnant.
Il y a longtemps que c'est dans les cartons, ça.
Un peu, hein.
Maintenant, on va parler un peu de santé des travailleurs. Il s'agit de 755 mineurs des charbonnages de France de Lorraine. Alors, pour un préjudice d'anxiété, 1000 balles avaient été accordées par les prud'hommes de Lorraine. On fait ces travailleurs ont fait appel parce que pour eux, 1000 balles, c'est peu quand on a bouffé des poussières toute sa vie et respiré du formol et autres saloperies cancérigènes. Donc, appel pour gagner plus, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que la cour d'appel de Metz les a déboutés. Et mieux, leur a retiré les 1000 balles de préjudice qu'ils avaient gagné, donc dans un premier temps. Par contre, le tribunal a tenu compte et préféré les arguments des charbonnages de France qui ont tout mis en œuvre pour le bonheur et la santé des mineurs, évidemment, comme d'habitude. Donc, je dirais mineurs bananés, bonne santé. Et les mineurs, ils n'en sont pas restés là, puisqu'ils iront en cassation, car les preuves ont été faites de l'utilisation de produits nocifs. Et elle n'est pas terminée, donc, cette affaire. On en reparlera probablement après les congés. Alors, juste pour dire un petit mot sur les charbonnages de France qui ont été créés en 1946 pour relancer les affaires françaises. Évidemment, la France à cette époque était exsangue. Ça a été piqué au privé. C'est ce qu'on appelle des nationalisations de cette époque, des compagnies minières. La dissolution des charbonnages de France date de 2007 avec une dette de 2,5 milliards d'euros reprise par l'État, donc avec nos sous, on a casqué, vas-y. Il y a eu aussi une agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui a été créée en 2005. Et je trouve que c'est vachement efficace quand on lit évidemment ce qui leur est arrivé récemment. Aulnay-sous-Bois maintenant, dans le département 93, j'annonce que les patrons se nomment aujourd'hui logiciels. C'est ce qui est arrivé le 4 juillet dernier chez Flexcité. Alors c'est une filiale de la RATP pour le transport des personnes handicapées. Alors c'est ainsi que 90% des salariés se sont mis en grève illimitée. 40 conducteurs et une vingtaine en manifestation devant le siège. En fait, ce logiciel leur impose leur calcul, même les trajets, les horaires d'embarquement des usagers et usagères, comme si ça roulait sur du velours, n'est-ce pas? Ça va tout seul. Donc à Paris et ses environs, vous imaginez un petit peu comment c'est un peu le merdier là-bas. Donc les revendications, c'est d'avoir un autre logiciel pour améliorer les conditions de travail. Et pendant qu'on y est, revoir les salaires à la hausse. La RATP, donc le patron, rétorque que le logiciel a été développé par une entreprise experte, mais reconnaît qu'il y a encore quelques ajustements à apporter. Pour les salaires, ils gagnent 1170 euros mensuels, net, ces gens-là. Donc il a été proposé un accord d'intéressement à 350 euros par salarié. Et le conseil départemental, donc l'autre patron, bah, demande une rapide solution. Et sur cette lutte, bah, il y a la CFDT et la CGT qui donc, se partagent les responsabilités. À Rennes, maintenant, avec une manifestation de plus pour le squat La Poterie. J'avais fait quelques petites brèves là-dessus. C'est la huitième manifestation. C'était fin juin pour les occupants et occupantes. La fermeture arrive à grands pas, puisqu'en général, c'est à coups de matraque et de gaz. Donc, plusieurs familles occupent actuellement ce lieu, donc La Poterie, 160 personnes, dont 70 enfants, et aucune proposition de relogement. À l'orée donc des congés, ça va passer comme une carte postale à la poste. Dans la même veine, je dirais, mais plutôt dans la même déveine, c'est une vingtaine de personnes qui ont gêné, on va dire entre guillemets, à un moment, la session du conseil départemental à Rennes. La motivation de cette action, bah, ce sont les logements vétustes. Vétustes, et encore, j'emploie ce mot, c'est un petit peu gentil, parce que je pourrais dire pourri, serait plus adéquate, dans lesquels vivent les locataires du quartier de Villejean à Rennes. Donc, moisissure, humidité, Cancrela, livré clé en main par Néota. Néota est un bailleur dit social, dont le conseil départemental est majoritaire au conseil d'administration. Et pour le dire l'eau donc de Néota, bah, les logements moisis ne sont pas occupés. C'est-à-dire que la moisissure, les cancrelats, bah, sont très intelligents et intelligentes, donc ils ont décidé d'occuper que les logements vides de ses occupants, évidemment. Ça, c'est logique, ça va de soi. À Nancy, maintenant, c'était le 6 juillet, avec une cinquantaine de personnes dont l'emploi est de agents de nuit, qui ont occupé la réunion du comité technique c'est un projet de la direction de modifier les horaires, et ça les amuse, bientôt ils vont nous changer les jours de la semaine, 10h30 à 10h pour janvier, comme les agents savent compter, ça fera 7 nuits de plus par an au centre hospitalier de Nancy. Donc réduire les effectifs, c'est le but. Une idée qu'elle est bonne, puis restructuration des services et le fameux fermeture de lits que je rappelle.
On connaît
que
bien
c'est supprimer ouais. des lits, oui, et non pas fermeture de lits, ça se ferme pas un lit, enfin quand même. Donc total de l'opération, et ben ça sera donc au total 10 emplois économisés. Voilà, c'est bien calculé, n'est-ce pas?
Ouais.
Et puis pour finir cette première page, c'est Sedan avec les transports Michaud. Qui connaît pas les transports Michaud, hein? Enfin, les transports Michaud, ils ont été liquidés, 82 licenciés en juin. Et depuis, ben, c'est une grève avec occupation des locaux du transporteur, car il y a un loup dans la bergerie, du moins il y a un loup dans le dépôt. Alors, pas si malheureux que ça, le père Michaud qui a transféré l'activité de Sedan dans d'autres sociétés lui appartenant. Alors, les piquets de grève vont bon train. Alors, certes, la liquidation a été prononcée par un juge. Certes, un plan social a été évoqué aussi par la CGT, mais pas le sou pour Michaud, parce qu'il n'a rien, paraît-il, il est sec. Donc, ils ont finalement obtenu ça a payé, on peut dire, enfin, si on peut dire ça comme ça, 5 555 euros d'indemnité en indemnité supralégale. Quoi.
Il n'était pas si sec.
Ils ont toujours un peu de côté.
Je ne sais pas si cet argent-là sort de sa poche, finalement, au bout du compte. On verra tout à l'heure, j'ai autre chose à ce sujet-là. Voilà pour cette première page.
On verra bien. Je ne me rappelle plus par quoi on enchaîne. Alors, vous savez sûrement mieux que moi.
Ah, mais j'ai tout noté.
Je sais bien.
C'est Johnny Depp aussi
qui
fait des choses. Johnny.
Un petit scandale people. Allez, pour les
Johnny Depp.
Alors, Johnny Depp, il a été il a une ex-femme, il s'appelle Amber Heard, je crois, voilà, qui avait porté plainte contre lui pour violence conjugale. Donc, alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je vais vous lire le truc. Johnny Depp a violemment frappé Amber Heard. On rapportait des articles. Il l'a maltraitée et selon certains, s'en est pris physiquement à elle au cours de leur mariage. Ces commentaires ont été faits par l'ancien manager de Depp dans des documents légaux obtenus par le magazine américain People. D'un coup, le public s'énerve car Amber Heard sera enfin crue. Cet énervement survient alors que l'année dernière encore, ces révélations ne semblaient pas crédibles quand Amber Heard elle-même disait que Johnny Depp l'avait brutalisé. C'est comme s'il n'y avait pas assez de preuves il y a 14 mois pour que l'on croie une femme se plaignant de violence. Comme s'il n'y avait pas assez de photographies montrant ses bleus. Comme si cette vidéo de l'une de ses attaques ne suffisait pas. Au lieu de cela, lorsqu'elle a révélé les violences au moment de demander le divorce avec Depp, Heard a été accusée d'être intéressée, une menteuse qui ferait n'importe quoi pour obtenir de l'attention. Depp, à l'inverse, avait le droit au bénéfice du doute. Dans un édito publié sur le site de Pool, la journaliste Zoé Betty s'insurge contre une prise de conscience tardive du public concernant les violences de Johnny Depp envers Amber Heard. Depuis que le témoignage de Joe Mandel, l'ancien manager de Johnny Depp, est devenu public, le discours sur les circonstances du divorce de l'acteur et la mannequin évolue dans les médias. Certains demandent à Johnny Depp de s'excuser auprès d'elle, d'autres publient des articles horrifiés devant la violence de l'acteur. Personne ne doute des dires de l'ancien manager, alors que tout le monde, ou presque, avait douté de la bonne foi de la première concernée, critique l'auteur du Post. Alors comment se fait-il que l'on ait besoin du témoignage d'un homme pour enfin croire une femme qui se plaint de violence sur elle-même ? Comment se fait-il que la victime doive, lorsqu'elle est seule, encore souffrir des campagnes de culpabilisation, être scrutée de toutes parts, comme si les coups tombaient par sa faute ? Et pourquoi persiste-t-on à croire que ce que dit une femme n'a pas de valeur ? Donc voilà, en gros, c'est le résumé de l'histoire qu'il y avait eu. Donc Johnny Depp avait été violent envers son ex-femme et il avait fallu attendre que son ancien manager témoigne de ça pour que du coup, pour qu'on puisse la croire. Donc voilà. C'est un peu voilà, scandale people, ce que je dis.
La petite page people. Mais c'est ce qui arrive souvent du coup dans ce genre de cas, c'est que soit il faut vraiment énormément de preuves pour qu'enfin les médias prennent conscience et que du coup éventuellement les fans aussi, mais quand c'est pas le cas, voilà, c'est juste.
Bah oui.
Comme d'habitude.
Voilà, malheureusement. Alors du coup, je vous ramène du coup à l'Assemblée. Avec un autre petit scandale people sur notre Premier ministre, donc Édouard Philippe, qui a émis l'idée de supprimer les aides au logement, donc les APL. Alors, dans son discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée nationale le 4 juillet, notre Premier ministre a déclaré vouloir repenser les politiques publiques inactives en prenant l'exemple des aides au logement qui coûtent cher et ne donnent pas assez de résultats. Donc, les aides au logement sont la cible de nombreuses critiques depuis des années. Elles ont été jugées trop coûteuses, fustigées pour leur assiette trop large, permettant à des gens qui n'en ont pas besoin d'en bénéficier. On leur reproche même de contribuer à la hausse des loyers en étant répercutés sur leur montant par les propriétaires.
Ça, c'est fort.
Voilà. Et le Premier ministre compte peut-être y porter le coup fatal suite à cette annonce. Reste à savoir donc qui sera touché et quel montant pourra être économisé. Donc 17 milliards d'euros pour 6,3 millions de foyers. Les derniers chiffres connus sur les aides au logement remontent à 2014 en leur montant 17,7 milliards d'euros représentés à l'époque 1% du PIB français. Le terme aide au logement regroupe en réalité trois dispositifs distincts. Donc l'aide personnalisée au logement, réservée aux locataires de logements conventionnés, donc logements sociaux. L'allocation de logement familial, donc ALF. L'allocation de logement social, ALS, destinée aux ménages du secteur privé qui n'ont ni accès à l'APL ni à l'ALF. Bon voilà, ça fait beaucoup de sigles. Mais voilà, du coup la dernière catégorie concerne principalement les étudiants. Donc ces trois aides sont perçues par 6,3 millions de foyers et c'est un des principaux reproches qui leur est fait. Elles concernent trop de monde et des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Une des pistes de réforme pourrait être celle d'un recentrage des aides sur les plus démunis. Les derniers ministres du logement avaient d'ailleurs déjà commencé à réduire le public touché. En juillet 2016, près de 80 000 foyers ont vu leur aide réduite ou supprimée suite à la mise en place d'un nouveau barème qui prévoit que le montant de l'aide au logement soit diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer et qu'il décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond selon le décret de l'application. Donc cette mesure avait été prise dans l'optique d'empêcher les appels de favoriser la hausse des loyers. En octobre 2016, c'est la base de calcul servant à déterminer le montant des APL qui a été modifié. Les produits financiers, livrets d'épargne compris, et les biens immobiliers sont désormais intégrés au calcul dès lors que leur montant total dépasse 30 000 euros. Selon les chiffres fournis par le gouvernement de l'époque, 650 000 ménages seraient touchés par cette mesure. Quelle sera donc la prochaine étape, le prochain stade dans la refonte des aides au logement ? Le gouvernement d'Édouard Philippe pourra donc au choix soit continuer à réduire le champ des ménages concernés par les différents dispositifs, réduire le montant des aides, voire même les supprimer définitivement. Quelle que soit la voie choisie, cela ne sera pas fait sans encombre. Les associations et syndicats veillant au grain pour que les finances des ménages ne soient pas trop pénalisées. Parce que, ouais, bah, c'est grave, quoi.
Ce qui est fou, c'est super violent, c'est de faire porter la casquette aux pauvres, en fait, du coup, en disant que c'est de leur faute. S'ils touchent des aides et si le loyer augmente, tout en sachant qu'il faut quand même rappeler qu'il y a au moins 2 millions, voire plus, de logements vides, et c'est ça qui fait augmenter les loyers, puisque si le logement vide était occupé, bah dans ce cas-là, il y aurait moins de concurrence, et dans ce cas-là, les loyers baisseraient automatiquement. Donc c'est assez ouf de prendre cette excuse-là, en tout cas, quoi.
Et plus le fait que l'encadrement des loyers n'a jamais été vraiment
mis en place, voilà.
Plus qu'à chaque fois qu'il y a eu des petites réformettes qui ont été faites pour attaquer un peu le logement. Il y a eu tous les syndicats de ce qu'ils appellent les bailleurs sociaux, je ne sais pas comment ils appellent, qui sont montés au créneau en disant que ça allait tuer le logement privé, etc. Enfin, voilà. C'est un peu le foutage de gueule, quoi.
Truc de fou, voilà. Et pour revenir un petit peu au plan du gouvernement, on a déjà pas mal parlé de cette loi Travail 2, ou maintenant appelée XXL, etc. etc. C'était juste pour rappeler quand même une chose, parce que j'ai trouvé un article assez intéressant, puis du coup ça avait déjà été rappelé, il me semble, dans une émission, mais on va quand même le redire. C'est qu'en fait, toute cette... tous ces projets-là, tous ces 12 points pratiquement de cette loi travail, en fait, elle correspond à peu près aux mesures emblématiques que de demander le MEDEF en fait en 2012. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, depuis plusieurs années, il souhaite voir appliquer un certain nombre de mesures qui figurent du coup maintenant dans cette loi-là. Le MEDEF, en fait, tous les ans, ils envoient un texte du coup au fameux, parce que j'aime pas ce mot-là, aux syndicats, pas aux partenaires sociaux. Voilà, c'est des bases de travail du coup que l'organisation patronale propose donc du coup pour la France. Et du coup, en 2012, donc ils avaient fait un super beau texte qui avait déjà un petit peu été validé entre guillemets par les gouvernements, notamment avec la NI du 11 septembre 2013, puis après avec la loi Sapin, par rapport à l'efficacité du dialogue social, toujours. Et vous savez ce fameux adage qu'il avait dit, 1 million d'emplois, c'est possible, et ouais, on les attend toujours, Coco. Et donc là, pour revenir un petit peu sur ce qu'il demandait, vous allez voir, c'est assez frappant sur ce qu'il demandait et ce que propose le gouvernement. Alors, ces fameux CDI de chantier. Donc, en 2012, l'organisation patronale propose la création, du coup, d'un contrat de projet à durée indéterminée. Donc, il s'agit, en fait, d'encourager le recours à ce type de contrat signé pour, entre guillemets, selon eux, la réalisation d'un projet précisément identifié dont la durée ne peut être inférieure à 9 mois. Et ben du coup, les syndicats forcément n'en ont jamais voulu. Et ben maintenant, sous la dénomination de contrat de chantier, ce CDI est réapparu dans les consultations de manière impromptue, à la demande du Premier ministre, et figure désormais dans le projet de loi d'habilitation. Un deuxième chose, on en avait déjà parlé aussi, par rapport au délai de recours des salariés en cas de licenciement, et notamment de la prévalence du fond sur la forme. En gros, le fond sur la forme, avant, quand il y avait une erreur sur la lettre de licenciement, le salarié pouvait du coup donc aller au prud'homme et l'entreprise pouvait être condamnée. Et là, ce que demandait le MEDEF en 2012, c'était si une lettre de licenciement est mal formulée, celui-ci ne pourrait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse par la justice. Donc ça veut dire du coup qu'il n'y aurait pas condamnation. Cette mesure, elle est reprise sous des termes juridiques différents et choisie dans le même projet de loi d'habilitation. La ministre du Travail a même évoqué la mise en place d'un document administratif type pour sécuriser les employeurs et mettre fin à la fameuse peur d'embaucher. Mais oui, c'est forcément ça. On rappelle, un petit coucou quand même à la ministre du Travail, quand même, qui est quand même mise en... Comment on dit ? Mise en cause, par contre, dans une affaire de financement sur une petite sauterie de Macron à Las Vegas. Enfin voilà, c'est sympa de donner des conseils aux autres et de vouloir mettre des choses en place alors qu'on respecte pas soi-même. Le MEDEF, déjà en 2012, demandait qu'une indemnité forfaitaire est calculée en fonction de l'ancienneté soit appliquée en conciliation. Pareil, quand on est licencié, on va au prud'homme. Et du coup, là, c'était le juge qui décidait un petit peu du plafond et de ce qui était donné aux salariés. Il y avait déjà eu, du coup, en 2013, dans l'accord national en 2013, donc le fameux ANI, puis dans la loi Macron, déjà une intrusion de la notion de barème. Aujourd'hui, le gouvernement va aller encore encore plus loin sous la pression du MEDEF en fixant du coup un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de l'ancienneté pour les dommages et intérêts alloués par le juge. En gros, ce que ça veut dire, que l'entreprise pourra, on l'avait déjà dit, mais on va le redire, l'entreprise pourra mettre de côté un peu des thunes. Voilà, en se disant, on va mettre ça de côté, et puis le jour où on veut licencier un tel ou une telle, on aura déjà les sous parce qu'on sait que ça va être plafonné, on saura à peu près combien faudra donner si cette personne va au prud'homme. Et dans ce cas-là, c'est une liberté de licencier encore plus grande. Ça existe déjà dans les entreprises et dans les associations, en tout cas dans la mienne, dans la mienne que je salue bien bas. Voilà, il y a un petit pécule de 1 ou 2 millions d'euros de côté, pour payer tous les jugements au prud'homme. Voilà, c'est assez formidable.
Et c'est un peu la même chose qui était fait aussi avec les caisses dans la métallurgie. Aussi, je crois, les caisses illégales dans la métallurgie.
Exact, voilà, c'était ça aussi, ouais.
Les caisses de patrons, là,
l'IU, l'AMM, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exact, ouais. Toujours par rapport au prud'homme, c'est le délai de prescription, on en avait déjà parlé, donc petit à petit, ce délai se réduit de plus en plus. C'est donc le délai du moment où on est licencié et de lequel on va au prud'homme. Généralement, quand même, le licenciement, c'est un traumatisme mental et des fois physique, avec des séquelles, avec des conséquences physiques. Donc, faut prendre le temps de se remettre de tout ça, faut réfléchir un petit peu, faut prendre un avocat souvent, ou alors aller voir les syndicats, mais il faut quand même du coup avoir une défense bien béton. À l'époque, du coup, ça avait été étendu, après ça avait été réduit à 24 mois, contre 18 mois, enfin c'était mis à 24 mois alors que le MEDEF demandait 18 mois, et donc ce délai maintenant est de seulement 12 mois pour un licenciement économique, et là ils veulent encore le réduire et le mettre à seulement 2 mois. Donc c'est mieux que ce que le MEDEF avait jamais espéré.
Et sachant qu'ils veulent réduire aussi le plafond sur tout ce qui va être par exemple les cas d'harcèlement par exemple ou ce genre de choses, c'est-à-dire que là aussi encore une fois il suffit que par exemple t'aies un harcèlement moral ou même sexuel au travail, il faudra que t'attendes, faut espérer que tu t'arrives à t'en sortir avant 2 ans parce qu'après sinon ce sera cuit, jurisprudence ou je sais plus comment ils appellent ça, mais
il cherche un mot le monsieur.
Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ce sera rideau.
Tout à fait, c'est dit comme ça, c'est mieux. Et puis on ne reviendra pas parce que je m'étais déjà étendu dessus, avec cette instance unique du personnel aussi, ce fameux DUP pour délégation unique du personnel, qui est vraiment un truc demandé par le MEDEF depuis très longtemps, que lui appelle conseil d'entreprise. Oh. Comme c'est mignon, oui, tu es collaborateur avec ton patron, donc tu vas travailler avec lui.
Main dans la main.
Je vous rappelle, le but, c'est de fusionner les instances du personnel, donc les DP, le CE et le SHSCT, tout ça pour couper court à toute. Tout le rapport de force qu'avaient les salariés, notamment avec le CHSCT. Donc ça c'est un truc du coup qui est demandé par la loi. Du coup, monsieur le réalisateur de l'émission, le technicien, il est 20h51, je ne sais pas ce qu'on fait du coup.
Eh bien, j'avais proposé une musique, si c'est un peu trop long, peut-être qu'on peut continuer avec une autre.
Ouais, je veux bien éventuellement, si ça.
Quoi, tu veux quoi, une musique?
Non, du coup, continuer. Enfin, après, moi, quand je commence, je m'arrête jamais.
Voilà, j'ai une page de lutte encore.
Ouais, je fais vite alors, du coup. Ça y est, je vais me faire engueuler, par les camarades à la radio.
Du coup, ça va.
Voilà, ouais. Donc, je ne dis pas du coup. J'espère que vous ne l'aurez pas entendu. Ouais, vous avez sûrement vu ce petit article par rapport à la situation toujours des migrants à Calais, avec des techniques policières de plus en plus violentes, le sont déjà, mais là c'est pire, parce que du coup selon plusieurs associations, de l'eau et de la nourriture destinée aux migrants auraient été gazées fin mai et début juin. Donc c'est une des associations notamment qui s'appelle l'Auberge des Migrants, donc qui nourrit et accompagne les migrants à la rue à Calais, qui a tweeté du coup un cliché lundi dernier avec la mention suivante: les autorités empoisonnent l'eau des migrants à Calais avec du gaz lacrymogène. La lutte contre les points de fixation, c'est ça. Et c'est pas la seule association à avoir dit ça, puisque effectivement, a priori, c'est même avéré que des bidons d'eau ont été gazés à Calais. Donc c'était surtout fin mai et début juin, mais a priori aussi la pratique continue. Le 25 mai dernier, une bénévole de l'association Utopia 56 nous disait: deux Afghans m'ont rapporté des bidons vides. L'un d'entre eux avait bu une gorgée et avait été tellement légèrement irrité. Quand ils ont compris que l'eau n'était pas buvable, ils l'ont jetée. Sur 2 semaines, j'ai entendu 3 témoignages similaires et une fois les migrants qui ont vu la police le faire. Donc à l'époque, c'était pas un cas isolé. On a eu 3 à 4 témoignages en 2 semaines. Donc on imagine que du coup, ça, on peut au moins multiplier ça par 2 ou par 3. Voilà. Donc en ce moment-là, c'est plutôt calme, disent les associations, mais effectivement, en mai-juin, tous les jours, des témoignages sur des exilés empêchés de manger, des bidons arrosés de gaz, mais aussi les sacs de couchage. Une fois, du coup, un migrant a été aspergé de gaz sur la bouche. Il faut savoir que l'État, du coup, quand même, avait fait appel de la décision du tribunal administratif qui réclamait aux autorités des points d'eau, des douches et des latrines pour les quelques 600 migrants à Calais. Donc l'État avait fait appel de ça, quand même, c'est ce qui m'a dit la violence aussi. Mais cela va donc plus loin, puisque les forces de l'ordre empoisonnent l'eau. Alors qu'il n'y a pas de preuves formelles, bien sûr, mais que c'est une consigne, en tout cas, mais on constate que ça existe et que c'est toléré. On se rappelle, ce sont des reportages qu'on avait vus, hein, où les flics débarquaient en pleine nuit pour réveiller tout le monde, voilà. Et des exilés ont raconté aussi que la nourriture a été touchée, puisque le 5 juin, vers 20h30, un groupe d'une cinquantaine d'Afghans s'installe autour d'un plat de pâtes. Un camion de CRS arrive vers nous et deux CRS gazent le récipient qui contient toute la nourriture pour le groupe. Voilà, etc., etc. Puis il y a aussi forcément, du coup, juste un gazage, du coup, des personnes aussi, énormément qui se font. Donc on sait que les polices, a priori, aiment bien aller travailler là-bas et c'est pas pour rien non plus, parce qu'ils peuvent se lâcher totalement, puisqu'il n'y a rien qui leur est fait. Voilà.
Ça rappelle un peu le mec qui balançait de l'acide de batterie sur les
sur les migrants. Exactement. Et très vite, avant un petit budget de lutte sociale encore, encore de la répression pour un soutien aux migrants. Cette fois-ci, c'était à Paris, lors d'une manifestation, du coup, en soutien aux migrants. Un bénévole, voilà, qui est régulièrement, a été. Pardon ?
Trois fois du coup.
Ah là là, je m'en rappelle, personne même pas, c'est terrible. J'allais le redire encore. Donc là, il a passé en procès, du coup, pour parce qu'il aurait dit à des flics, il aurait donc traité les flics de nazis, parce que du coup, ils avaient évacué la manifestation. Assez marrant, du coup, le procès s'est fait en vidéoconférence, puisque les flics qui étaient à Toulouse ne pouvaient pas venir en jugement, forcément. Donc voilà, je vous laisserai aller lire ça. Le jugement, donc, délibéré au 6 octobre. Donc c'est parole contre parole, même s'il y a des témoins qui se souviennent que ce monsieur n'a pas insulté, enfin en tout cas traité nazi, c'est même pas une insulte pour un flic, mais du coup, n'a même pas dit, quoi. Il y a des témoins des gens qui témoignent de ça. Voilà, les flics heureux, ils demandent 1000 euros chacun, comme d'habitude. Et même si l'avocat, enfin si le procureur à un moment donné et le juge disent, bah effectivement par rapport aux insultes ça pouvait pas être prouvé, il nie du coup la violence policière parce qu'il a quand même pris un coup de matraque sur la tête et il s'est évanoui. Oui. Ouais, les flics ont dit qu'il avait simulé une perte de connaissance. La preuve, ce qu'ils avaient vu, un léger sourire sur ses lèvres, c'est formidable ça. Quand même, donc voilà, il réclamait quand même 1000 euros, mais du coup. Voilà. Ah non, je l'ai redit encore. C'est pas grave. Donc le procureur reconnaît cependant, donc du coup, que les faits de violence aux policiers ne peuvent être retenus contre Nicolas. En revanche, à aucun moment il met en doute la version des policiers. Et donc, puisqu'une main a été censée avoir été posée sur le torse de l'un d'entre eux, il y a selon lui rébellion face à l'interpellation. C'est beau. Donc voilà, encore une personne de juger pour son aide aux migrants.
Et sûrement soutenu par un bel avocat véreux.
Tout à fait.
Un syndicat tout aussi dégueulasse.
Allez, du coup, on va finir l'émission par quelques luttes.
Allez, des luttes encore, et je vous emmène. On prend le train, ce que vous voulez, le vélo. Allez, et on va à Nouzonville, c'est dans les Ardennes avec Ardennes. Permettez ?
Ouais, mais c'est gentil, en vélo, les Ardennes.
C'est très joli, c'est très boisé. Très boisé. Donc, c'est à Nouzonville avec Ardennes Forge, qui a été donc une société qui a été liquidée en 2010 après avoir repris Thomé Génaud, un autre forgeron. Il y avait quand même 47 ouvriers et les 47 avaient reçu des indemnités de licenciement par les AGS garanties de salaire. Alors, j'explique un peu ce que c'est que je l'avais déjà fait, hein, mais bon, personne ne s'en souvient, je suis sûr. Donc, c'est un régime qui a été créé par les employeurs qui intervient quand une entreprise cotisante a des difficultés de trésorerie pour payer ses salariés. Donc, ils sont payés comme ça. Donc, chose faite en 2010, mais voilà que les AGS, aujourd'hui, contestent les sommes versées aux licenciés et les contraint à rembourser un trop-perçu. C'est beau. De 6 000 euros à 24 000 euros, quand même, par personne. Hein. Donc il y aura une suite, hein, j'espère. Maintenant, c'est à Argenteuil, dans le 95, avec une multinationale, Sanperi, hein, une société qui exerce dans le domaine de l'industrie caoutchoucière. Alors, ça ramène rien, du moins cette société à Argenteuil. Alors, ça a eu payé, mais ça paye plus. Mot d'ordre des actionnaires. Et on ferme les ouvriers, donc 88 personnes, la CGT, FO, vont tenter le possible ou l'imaginable Le 30 juin, l'annonce a été envoyée, c'est-à-dire quand je dis l'imaginable, c'est-à-dire rattraper un peu les conneries, quoi. Donc le 30 juin, l'annonce a été envoyée. La semaine suivante, c'était les premières actions avec soutien des argenteuillais et des argenteuillaises et de militants diverses. Alors sans périte, donc cette multinationale n'est pas pauvre, hein, loin de là, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en bénéfices et en commandes. 40 millions pour les actionnaires qui sont bien plus voraces peut-être qu'ailleurs et bénéficient et qui a bénéficié aussi cette société du CICE. Donc le gratin politique a été interpellé à la fois de l'Île-de-France, de toute l'Île-de-France et jusqu'à l'Élysée quand même. Et pour soutenir tout ça, il y a eu un rassemblement donc de soutien le 6 juillet à Argenteuil. À mon avis, c'est plus simple comme ça hein, quand même. Hein. Bagnolet maintenant, toujours dans la région parisienne, c'est un collectif, les Barras, ou les Barras d'ailleurs, que fin juin, ils connaissaient donc une énième expulsion. Il y a eu organisation d'une manifestation le 8 juillet qui passait devant tous les lieux de vie de ce collectif qui occupait hein, tous ces lieux, donc au Lila, à Bagnolet et à Montreuil. Et donc, dernièrement, c'est le 29 juin, ils occupaient une ancienne agence ANPE, tout à fait vide, hein, qu'ils ont occupé donc depuis 3 ans, qui occupait depuis 3 ans. Virés, donc sans crier gare par la préfecture, donc CRS, matraque, gaz. Et pour expliquer ce que c'est Barras, les Barras, c'est un collectif qui accueille des travailleurs sans papier. Il y avait 250 personnes, donc ce 30 juin. Il y a eu 2 arrestations de 2 personnes qui sont parties donc en CRA. C'est un collectif qui est très bien accueilli dans le quartier de la Duisse, donc à Bagnolet, dont les habitants ont accueilli les CRS à coups de foutez le camp, barrez-vous, voilà, qu'on connaît bien. Hein. La lutte est inégale quand l'État y met évidemment les pattes. Le préfet a mis son veto sur tout ce qui pouvait servir d'abri, tente, matelas, etc. D'autant grave pour ces travailleurs que la préfecture n'a même pas prévenu de l'expulsion le maire de Bagnolet. Donc les soutiens aux sans-papiers et eux-mêmes demandent la libération des 2 personnes qui sont en CRA. Outre la manifestation du 8 juillet, bien, il y a eu un rassemblement le 30 juin, une manifestation le 2 juillet. Alors ils dormaient, pour donner un peu des détails sur leur vie actuellement, de ces sans-papiers, de ces travailleurs sans papier, ils dormaient sous le pont d'un échangeur. Voilà, donc il y a eu des pourparlers entre, quand même, ça avançait un petit peu, enfin j'ose dire que ça avançait un petit peu, il y a eu des pourparlers entre le propriétaire du bâtiment, la mairie, RESF, la LDH et le collectif donc de sans-papiers eux-mêmes. Donc je l'ai dit, hein, c'est un ancien bâtiment de la NPE qui était complètement vide. Voilà. Alors maintenant, je donnerai un petit coup de chapeau, si j'osais, hein, donner un coup de chapeau, aux aides-soignantes de la maison de retraite Les Opalines à Fourcheron. J'en ai fait aussi quelques comptes rendus, hein, ce micro, c'est dans le Jura. Ils sont 11 personnes depuis 3 mois de lutte, 100 jours, et c'est pas encore la retraite, car le 4e mois est entamé. Quand elle multiplie donc les rencontres avec la direction, je rappelle que cette lutte a démarré le 3 avril hein, quand même. Hein, donc voilà. Leur combat, donc les rencontres avec la direction, donc sont toujours constants. Donc leur combat pour la dignité, c'est leur leitmotiv devant une direction atone. Assurer les soins aux personnes dépendantes nécessite bien sûr de personnel qualifié. Elles le sont, elles, mais le compte de personnel, lui, n'y est pas. C'est une de leurs revendications. Et puis aussi arrêter l'hémorragie des démissions, hein, des démissionnaires, et leur ras-le-bol, le burn-out. Les 11 tiennent le coup, elles le disent, malgré 3 absentes qui sont en arrêt maladie. Elles reçoivent du soutien, une 50aine de personnes à Montbéliard lors d'une énième rencontre avec le principal actionnaire fin juin. Proposition du Ponte à ce moment-là, 591 euros, soit 375 euros net de prime, et 2 embauches qui seront faites par l'ARS, donc payées par l'ARS. Alors c'est pas sérieux hein, le Ponte, hein, c'est pas sérieux du tout. Quand le groupe, donc cette un holding de 46 établissements qui a réalisé 150 millions sur un an, alors qu'il en avait fait 120 auparavant. Donc ça gagne des sous, hein, les personnes âgées quand même. Hein. Un autre EHPAD, encore parce que c'est un EHPAD, ça, évidemment. Ah, oui. Donc un autre EHPAD, c'est à Échillais, c'est dans les Charentes-Maritimes. Un EHPAD du groupe Orpea qui fait son beurre, donc avec le public des seniors dépendants. 475 millions d'euros en 2016. On parle de profit, c'est dire. 60 millions pour les actionnaires. Soit plus de 11% quand même de l'année précédente. Et à Échillais, ben, il et elle sont 100 salariés, une centaine de salariés, avec une grève le 4 juillet pour ben, des embauches et en CDI, pas de la demi-mesure, 150 euros pour les salaires et stop aux économies à la mie de pain dont les résidents et résidentes subissent évidemment les affres. Je ne donnerai point de détails ici parce qu'il y en avait quelqu'un, je maintiendrai de donner les détails, c'est horrible. Donc, des moyens pour leur rendre évidemment la vie un peu meilleure. Par exemple, ils étaient nourris avec des soupes en sachet. Hein,
ouais.
Tu vois. Donc, faut dire que le dirlo de l'établissement, il n'est pas tip-top. Enfin, du moins, s'il est tip-top, parce qu'il profère des menaces sans arrêt. Et il a fait l'objet de plaintes multiples et il passera en justice à la mi-septembre. Et la grève ici a débuté le 11 juillet. Donc, c'est... Hier,
c'est ça.
Voilà, donc c'est du tout chaud.
Voilà, assez rapide.
Voilà pour ce qui est des luttes de ce début juillet.
Assez rapidement, avant de laisser l'antenne à personne, enfin en tout cas aux bonnes continues. Deux choses qu'on avait abordées en début d'émission. Donc vendredi 14 juillet à 17h, la manif à l'initiative de l'Assemblée de Lyon et du Front Social à 17h place Guichard, donc vendredi 14 juillet. Et on vous invite dès demain matin à bien faire chier la ville de Lyon et la préfecture à propos de la manifestation fasciste organisée par le GUD qui aura lieu ou pas, en tout cas on espère bien, ou pas, le 15 juillet au départ de la place Carnot. Alors c'est très simple, eh ben, vous prenez votre téléphone, vous pouvez même changer de voix plusieurs fois si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, et vous faites les deux numéros suivants, la ville de Lyon 04 72 10 30 et la préfecture 04 72 61 60 60. Tout ça, voilà, pour donner votre avis, voilà, sur cette manifestation de néo-nazis en plein centre-ville de Lyon, qui est autorisée pour le moment par la préfecture. Donc voilà, on vous laisse le faire, voilà, on vous invite, voilà, à le faire vraiment de manière répétée, s'il le faut. Ouais. Voilà, faites sauter les standards, voilà, pour que ça se bouge un petit peu là-bas, qu'éventuellement cette manifestation n'ait pas lieu. Voilà, tout en sachant que pour les prochaines fois, comme on l'a dit en début d'émission, on espère pouvoir la prochaine fois organiser autre chose que cela. Mais là, c'était le minimum que l'on pouvait proposer. Donc voilà.
Très bien.
On vous donne pas rendez-vous samedi à la permanence, qu'il n'y aura pas de permanence samedi. Voilà, ce week-end de 3 jours, voilà, a été fatal à la permanence du samedi après-midi. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h, du coup, pour la permanence habituelle.
Et donc voilà. Au micro aussi.
Et au micro, je pense, on va finir la semaine prochaine.
Bah ouais.
Voilà, on donne rendez-vous pour la dernière avant l'été.
Ok, allez, on vous laisse avec le générique. Et puis à mercredi, de fait.
Yes.
Salut.
Salut.